Chapitre 13. Explication de l'étrange attitude d'un petit chat violet, suivie de l'épouvantable histoire des oreilles de M. Pétitot. Il nous faut tout d'abord monter à l'étage du dessus dans l'appartement occupé par M. et Mme Pétitot. Nous pénétrâmes déjà dans cet appartement le jour que Théophraste s'en va demander au professeur d'italien quelques renseignements nécessaires sur l'écriture du document. Il croyait bien alors ne commettre aucune imprudence. Quelle imprudence peut-il y avoir à présenter à un expert en écriture un document si déchiré, si maculé, si effacé, qu'il est tout à fait impossible, à première vue, de lui trouver un sens ni de lui donner une signification. Or, par un hasard excessivement mystérieux, mais qu'on finirait bien par expliquer à la longue, cette nuit-là, M. et Mme Pétitot s'entretenaient justement du document sur lequel le professeur avait eu à émettre un avis si rapide. Et la chose se passait dans le petit salon de Mme Pétitot, à côté du piano où elle jouait plusieurs fois par jour le carnaval de Venise. Mais en ce moment, ni M. ni Mme Pétitot ne songeaient à faire de la musique. Mme Pétitot disait « Je n'y comprends rien. La conduite de M. Longuet aujourd'hui à Saint-Germain, d'après ce que tu me dis, ne nous instruit guère, mais tu dois ne pas te souvenir des termes de tous les termes. Va prendre l'air aux chopinettes, regarde le coq, regarde le four. C'est vague, mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ben, ça veut dire d'abord, répondit M. Pétitot, que le trésor doit se trouver aux environs de Paris, du Paris de l'époque. Va prendre l'air. Mon avis est qu'il faut chercher ou du côté de Montrouge ou du côté de Montmartre. » Les Chopinets devaient être un endroit où l'on se régalait en partie fine, certainement un endroit champêtre. Ben, je penche pour Montmartre à cause du coq. Il y avait un château du coq au Porcheron. Regarde ce plan du vieux Paris. » Ils regardèrent le plan sur un petit guéridon. Bon, c'est encore bien vague, ajouta après un silence M. Pétitot. Non, moi, je crois qu'il faut surtout s'attacher à ces mots, le four. Mon cher ami, c'est de beaucoup de plus en plus vague, alors. Car il y avait beaucoup de fours autour de Paris, de fours à plat, de fours à chaud, de fours à briques. Bon, mon idée, dit M. Pétitot, est que le four ne veut pas dire le four. Car je me souviens, et tu sais de quelle prodigieuse mémoire je suis doué, qu'il y avait un certain espace entre le mot et le mot four. Et après le mot four, il y avait encore un grand espace sur le papier. Passe-moi le dictionnaire. » Madame Pétitot se leva avec les plus grandes précautions et sans bruit apporta un petit lexique. Ils suivirent et inscrivirent tous les mots substantifs qui commençaient par la syllabe « four ». Ils trouvèrent « fourche »,« fourchette »,« fourchure »,« fourgon »,« fourmi »,« fourmilière »,« fournaise »,« fourneau »,« fournil », fourrage, fourrière, fourrure. À cause du mot « le », ils furent d'avis de ne prêter point d'attention à la fourche ni à aucun des substantifs féminins. Il restait fourgon, fourneau, fournil, fourrage, qui ne leur apprenait rien. C'est alors que la pendule sur la cheminée sonna minuit. Madame Pétitot, très pâle, se leva et fit signe. Plus pâle encore, M. Pétitot était debout. « Voilà le moment, » dit Madame Pétitot. « Tu trouveras des renseignements utiles en bas. »« On ne peut pas t'entendre, » ajouta-t-elle avec des chaussons de corde. « Je veillerai derrière notre porte, en haut de l'escalier. » « Tu sais qu'il n'y a aucun danger, ils sont à Esbly. » Une ombre, deux minutes plus tard, glissait sur le palier de M. Longuet, introduisait une clé dans la serrure de la porte de M. Longuet et pénétrait dans le vestibule de M. Longuet. L'appartement de M. Longuet avait exactement la même disposition que celui de M. Petitot. Celui-ci trouva facilement son chemin dans la salle à manger. Il agissait avec autant plus de présence d'esprit qu'il croyait l'appartement inhabité. Il poussa à la porte du cabinet et vit le chat violet sur le bureau. Comme c'était évidemment à la serrure du bureau qu'il en voulait, M. Petitot retira le chat violet qui le gênait sur le bureau et le plaça sur la table à thé. Puis il quitta la pièce tout de suite et se précipita sans bruit dans la salle à manger, de là dans le vestibule, car il lui avait semblé entendre des voix dans l'escalier. Il s'était sans doute trompé. Quand il revint dans le cabinet, il retrouva le chat violet sur le bureau et ronronnant. Bien que les cheveux de M. Petitot fussent frisés, ils se dressèrent sur sa tête. L'horreur qui s'était emparée de lui n'était comparable qu'à l'autre horreur de l'autre côté du mur. M. Petitot resta immobile dans la lune bleue, même après qu'il n'entendit plus ronronner le petit chat violet. Et puis il se décida, et sur ses savates de corde, il fit quelques pas. D'une main timide, il se saisit du petit chat violet, et le mouvement qu'ainsi lui imprima fit que le ronron recommença. Il se rendit compte alors que, dans le ventre en carton du chat, il y avait une petite bille et que le balancement de cette petite bille dans ce ventre de carton simulait fort ingénieusement un ronron naturel. Comme il avait eu très peur, il se traita d'imbécile. Tout s'expliquait. N'avait-il point, avant de retourner dans le vestibule, remué le chat ? Au lieu de l'avoir posé sur la table à thé, comme il le croyait, il l'avait reposé sur le bureau. C'était simple. Là-dessus, il fit bien attention à mettre le chat violet ronronnant sur la table à thé. Il ne faut pas oublier que le ronron qui n'épouvantait plus M. Petitot recommençait à épouvanter Théophraste et sa femme, tandis que le second ronron qui avait défrisé de terreur les cheveux de M. Petitot avait au contraire laissé le ménage Longuet indifférent. Il y eut un nouveau bruit dans l'escalier. C'était Madame Petitot qui, surprise par un courant d'air formal à propos, éternuait. M. Petitot se reprécipita dans le vestibule en silence. Quand, rassuré, il revint dans le cabinet, le chat violet ronronnant était retourné sur le bureau. Il crut qu'il allait mourir d'effroi. Il pensa qu'une intervention miraculeuse l'arrêtait sur le bord du crime, et il fit une prière rapide dans laquelle il promit au ciel qu'il ne recommencerait plus. Cependant, un quart d'heure passé encore, comme il n'entendait plus rien, il attribua ces événements surprenants au trouble qu'apportait dans ses sens son exceptionnelle besogne, et il reprit le chat violet qui ronronna. Mais alors la porte de la chambre s'ouvrit avec violence, et M. Petitot, anéanti, tomba dans les bras de M. Longuet, qui n'exprima aucun étonnement. M. Longuet rejeta avec mépris M. Petitot sur le parquet et courut au chat violet dont il s'empara. Puis, ayant ouvert la fenêtre, il jeta le chat violet dans la rue, après avoir préalablement retiré de la tête du chat l'épingle de cravate qu'il y avait mise et à laquelle il tenait beaucoup parce que Marceline la lui avait offerte pour sa fête. « Ça, le chat !» dit-il dans une colère inexprimable. « Oh, tu ne nous empêcheras plus de dormir !» Pendant ce temps, M. Petitot, qui s'était relevé, ne savait plus quelle contenance tenir, d'autant que Mme Longuet, en chemise, le visait assidûment d'un gros revolver au brillant nickel. Il ne trouvait que cette phrase « Oh, je vous demande pardon, je vous croyais à la campagne. » Mais M. Longuet vint à lui, et lui prenant entre le pouce et l'index l'une de ses oreilles, qu'il avait fort longue, il lui dit « Maintenant, mon cher monsieur Petitot, nous allons causer. » Marceline abaissa le canon de son revolver, et lui voyant tant de courage, considéra son mari avec une admiration extatique. Théophraste continuait. « Vous voyez, mon cher monsieur Petitot, que je suis calme. Oh, tout à l'heure j'étais fort en colère, mais c'était contre ce satané chat qui nous empêchait de dormir. Aussi je l'ai jeté par la fenêtre. Rassurez-vous, mon cher monsieur Petitot, je ne vous jetterai pas par la fenêtre. Je suis juste. Vous ne m'avez pas empêché de dormir, vous. Vous avez pris la précaution de chausser les pantoufles à semelle de corde. Tous mes remerciements. Mais pourquoi donc, mon cher monsieur Petitot, faites-vous cette insupportable grimace? Ah, c'est à cause sans doute de votre oreille. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer qui vous mettra à l'aise, rapport à votre oreille. Vos oreilles ne vous feront plus souffrir, mon cher monsieur Petitot. » N'ayant parlé de la sorte, Théophraste pria à sa femme de passer un peignoir et monsieur Petitot de passer dans la cuisine. Ne vous étonnez point, lui dit-il, de ce que je vous reçois dans la cuisine. Je tiens beaucoup à mes carpettes et vous devez saigner comme un cochon. » M. Longuet tira à lui une table de bois blanc placée contre le mur et la disposa au milieu de la cuisine. Il pria Marceline de dérouler sur cette table une toile cirée, de se procurer la grande jatte et d'aller chercher dans le tiroir de la desserte de la salle à manger le couvert à découper. Marceline essaya d'articuler une demande d'explication, mais son mari lui montra un regard si étrangement glacé qu'elle ne put qu'obéir en frémissant. « Il y a des peurs qui donnent chaud, il en est qui donnent froid. » Ainsi M. Petitot grelottait, et c'est bien en grelottant qu'il tenta de gagner la porte de cette cuisine dans laquelle il se disait mentalement qu'il n'avait que faire. Malheureusement, M. Longuet se refusa absolument à laisser partir son voisin. Il le pria de s'asseoir. Il s'assit lui-même. « Monsieur Petitot, lui dit-il sur le ton de la plus excessive politesse, vous avez une figure qui me déplaît. Ce n'est point de votre faute, mais ce n'est point de la mienne non plus. Certes, vous êtes bien le plus lâche, le plus méprisable des petits bandits, mais qu'importe. Ceci n'est point mon affaire, mais celle de quelque honnête bourreau du roi, qui vous invitera la semaine prochaine à vendanger à l'échelle, ou certains jours qu'il fera chaud, ou mettra gentiment à la bise, à seule fin que vous gardiez, comme un brave homme, ses moutons à la lune. Ne souriez pas, monsieur Petitot. » Il est absolument évident que monsieur Petitot ne souriait pas. Vous avez des oreilles ridicules, et je suis certain qu'avec de pareilles oreilles, vous n'osez pas passer au carrefour Guillery. » Au carrefour Guillery se trouvait une échelle et un pilori. C'était là que l'on pratiquait l'essoriement au détriment des voleurs. On laissait quelquefois l'oreille droite, mais on coupait toujours l'oreille gauche à cause d'une veine correspondante avec les organes de la génération. On espérait ainsi que les voleurs n'auraient pas de petits. M. Petitot joignit les mains et bredouilla. « Ma femme m'attend. » « Qu'est-ce que tu fais, Marceline ?» cria Théophraste impatienté. « Tu vois bien que M. Petitot est pressé. Sa femme l'attend. As-tu le couvert à découper ? Je trouve pas la fourchette, répondit la voix tremblante de Marceline. La vérité était que Marceline ne savait plus ce qu'elle répondait. Elle croyait son mari devenu complètement fou. Entre Monsieur Petitot, cambrioleur, et Théophraste fou, elle était nullement portée à plaisanter. Elle s'était cachée instinctivement derrière la porte d'un placard, et son trouble était si extrême qu'en se retournant un peu brusquement, dans un moment que Théophraste lui lançait une bordée d'injures, elle renversa la desserte et le vase de sarreguemines qui en faisait le principal ornement. Il en résulta un grand bruit et une confusion complète. Théophraste s'en prit encore aux tripes de Madame de Falaris et appela si vigoureusement Marceline auprès de lui qu'elle accourut malgré elle. Le spectacle qui l'attendait dans la cuisine était atroce. Les yeux de M. Petitot semblaient sortir des orbites. Était-ce l'effroi? Bon, l'effroi devait y être pour quelque chose, mais aussi l'étouffement qui résultait du mouchoir que Théophraste lui avait enfoncé dans la bouche. M. Petitot lui-même était couché sur la table en bois blanc. Théophraste avait eu le temps et la force invincible de lui lier les poignets et les chevilles avec des ficelles. La tête de M. Petitot pendait un peu au-delà de la table. À côté de la table et sous la tête de M. Petitot, il y avait une jatte que M. Longuet avait placée là pour ne rien salir. Celui-ci, les narines palpitantes, c'est ce que Marceline remarqua surtout dans la figure formidable de son mari. Elle avait pris M. Petitot par les cheveux de la main gauche et dans la main droite, il serrait le manche d'un couteau de cuisine ébréché qui ne servait guère qu'à ouvrir les huîtres et des boîtes de consardines. Les dents de Théophraste grinçaient et il dit « Amène les pavillons !» Et il entama l'oreille droite. Le cartilage résistait. On entendait à travers le mouchoir le hurlement lointain et tout à fait sourd de M. Petitot. Comme M. Longuet était resté en chemise, il semblait, par derrière, quand on ne voyait pas son visage terrible, un interne penché sur une opération difficile. Marceline, sans force, tomba à genoux. M. Petitot tenta un mouvement suprême et le sang de son oreille jaillit à travers la cuisine. Théophraste lâcha les cheveux et lui administra une gifle. « Fais donc attention, disait-il, t'éclabousses partout !» Il ne faut pas s'étonner une seconde de l'extrême férocité de Théophraste. L'histoire, par la suite, nous apprendra que Cartouche a accompli des crimes au-dessus de l'humanité. Comme le cartilage résistait encore, il prit de la main gauche l'oreille droite et d'un grand coup du couteau ébréché acheva de l'arracher. Il mit cette oreille dans une soucoupe qu'il avait préalablement déposée sur l'évier et il ouvrit le robinet d'eau dont le jet, dirigé mathématiquement par le brise-jet, alla laver l'oreille de tout le sang dont elle était maculée. Puis il revint à la seconde oreille. Comme Marceline gémissait trop fort, il la fit taire d'un coup d'œil. La seconde oreille fut coupée beaucoup plus vite, sans comparaison, et vraiment, quant à moi, j'en suis bien aise, car le découpage de la première oreille est une chose affreuse. Il était temps. M. Petitot avait avalé la moitié du mouchoir. Il étouffait. Théophraste retira de la bouche de M. Petitot son mouchoir et le jeta dans le panier au linge sale qui était là par hasard. Il délia ensuite les chevilles et les poignets du lamentable expert en écriture et lui conseilla, dans le tuyau de l'oreille, puisque l'oreille elle-même avait disparu, de quitter le plus tôt possible son appartement s'il ne voulait pas qu'il le fît arrêter comme cambrioleur. Il eut encore la précaution de lui envelopper la tête dans un torchon pour que son sang ne tachât point l'escalier du concierge. Enfin, comme M. Petitot, agonisant, se disposait à regagner ses pénates, Théophraste lui mit les oreilles lavées dans la poche de son veston. « Vous oubliez tout en route, lui dit-il. Que passerait Mme Petitot si vous rentriez sans vos oreilles ?» Il referma la porte et regarda Marceline qui, toujours à genoux, se bourrait d'horreur. Il essuya le couteau sanglant sur sa manche. Chapitre 14. Monsieur Théophraste Longuet prétend qu'il n'est pas mort sur la place de Grève. Monsieur Longuet, dans les notes qu'il consigna le lendemain de cette nuit funeste sur son carnet des mémoires, ne paraît pas avoir attaché autrement d'importance à l'essorillement de Monsieur Petitot. La nature des femmes, dit-il, est tout à fait délicate. J'en jugeais par les mois de ma chère Marceline. Elle ne pouvait admettre que j'eusse coupé les oreilles de Monsieur Petitot. Sa manière de raisonner était incroyable et combien incompréhensible. Mais je la lui pardonnais à cause de sa sensibilité excessive. Elle disait que je n'avais pas besoin de couper les oreilles de Monsieur Petitot. Je lui répondis qu'évidemment, on n'avait jamais besoin de couper les oreilles d'un homme, pas plus qu'on a besoin de le tuer. Et cependant, 99 hommes sur 100, affirmai-je, et nul ne me contredira, auraient tué chez eux la nuit Monsieur Petitot. Elle-même, qui n'était après tout qu'une femme, si le revolver eût été chargé, aurait fait tout ce qu'il faut pour tuer M. Petitot. Elle ne le nia pas. Eh bien, en lui coupant les oreilles, n'avais-je pas prouvé qu'il n'y avait aucun besoin de le tuer? Un homme préfère vivre sans oreilles que trépasser avec ses oreilles. Et M. Petitot se trouvait aussi dégoûté de ses promenades nocturnes dans les appartements des autres que s'il était mort. J'ai agi pour le mieux, avec une grande retenue et une inconcevable humanité. » La logique de ses paroles la calma un peu, et ce qui restait de la nuit se serait passé convenablement si je ne m'étais avisé de lui dévoiler tout le mystère de ma personnalité. Ce fut sa faute, elle insistait pour connaître le pourquoi de mon courage subi, ce qui était assez naturel, attendu que jusqu'à ce jour, j'étais guère brave. Ce n'est pas en vendant des timbres en caoutchouc que l'on apprend à voir couler le sang. Alors je lui dis tout de go que j'étais cartouche, et par une sorte de forfanterie qui m'étonna moi-même, je me vantais de mes 150 assassinats personnels. Elle s'enfuit du lit, ainsi que je l'avais prévu, et jura que rien au monde ne la ferait coucher avec cartouche. Elle montrait les signes de la plus grande terreur et s'était réfugiée derrière le canapé. Et de plus, elle m'annonça qu'elle allait demander le divorce. Je ne pus m'empêcher, à cette nouvelle, de m'attendrir sur mon malheur. Je me pris à pleurer. Elle voulut bien alors se rapprocher de moi, me fit comprendre, oh, avec beaucoup de précaution, combien sa situation devenait difficile, qu'elle avait cru épouser un honnête homme et qu'elle découvrait tout à coup qu'elle partageait la couche du plus affreux des brigands et qu'il n'y aurait plus désormais pour elle de repos possible. J'avais séché mes pleurs, je compatissais à sa peine, et nous nous consolâmes d'une telle catastrophe que lorsque j'ai trouvé la solution, nous dirons à Adolphe, dis-je, de venir coucher avec nous. Elle acquiesça tout de suite à cette proposition, et il fut entendu qu'Adolphe aurait toujours son lit fait chez nous, comme il avait son couvert mis. Justement, Adolphe survint à la première heure. Marceline et lui s'enfermèrent dans le salon, et ils eurent là un entretien d'une longueur inusitée. Je m'étais retiré par discrétion dans mon cabinet. Quand ils vinrent me retrouver, ils semblaient sortir d'une conversation grandement animée. Adolphe me regarda avec tristesse et me pria de l'accompagner dans quelques courses qu'il avait à faire le matin même. Marceline insista pour que je fisse tout ce qu'Adolphe me demanderait, et je le promis sans difficulté. Adolphe et moi, nous descendîmes donc dans Paris. Je demandai à mon ami si l'étude du document lui avait révélé quelques faits nouveaux intéressant nos trésors. Oh, il me répondit que tout cela n'était guère pressé, qu'il fallait avant tout songer à ma santé et que nous prendrions tous trois, le soir même, le train pour la villa Flot d'Azur. Je remis la conversation sur le terrain de cartouches qui ne m'avait jamais autant préoccupé, mais il semblait éviter de me répondre et fuyait ce sujet. Enfin, je fus tellement pressant que, me voyant sur le point d'être tout à fait exaspéré, il voulut bien me donner sur moi-même quelques renseignements dont j'estimais avoir le plus grand besoin. Et puis il s'échauffa mon histoire, et je sus bientôt tout ce que je voulais savoir. Je lui dis que, dans la narration qu'il avait entreprise de ma vie d'autrefois, il m'avait laissé partir pour la guerre, et que je serais curieux de savoir comment bande soldat, je devins le plus grand bandit du monde, car mes propres souvenirs étaient fantasques. Ils me revenaient à leurs caprices et je ne connaissais encore ma vie que par lambeaux. Il me répondit que ceci ne s'était pas fait d'un coup. Après la guerre, on avait, comme de coutume, licencié la majeure partie des troupes et que je m'étais trouvé avec quelques camarades à Paris, sans ressources autres que celle qui pouvait venir de mon ingéniosité particulière et de mes talents spéciaux. J'en usais avec un tel bonheur et une audace, si remarquable, que mes camarades n'hésitèrent point à me prendre pour chef. Et notre troupe se grossit avec rapidité de tous les mauvais garçons que nous trouvâmes dans les rues, quand les honnêtes gens sont couchés. Justement, à cette époque, la police de Paris était si mal faite que je résolus de m'en occuper. Mon dessein était que chacun, bourgeois, gentilhomme ou curé, puisse se promener à toute heure, en toute tranquillité, dans sa bonne ville de Paris. Je partageais mes troupes fort habilement, leur donnais à chacune un quartier à garder et un chef intelligent qui restait toujours mon lieutenant docile. Quand un quidam sortait après le couvre-feu, et même quelquefois avant, il était abordé fort poliment par une certaine escouade de mes gens, qui l'invitait à verser une certaine somme, ou s'il n'avait pas d'argent sur lui à se défaire de son habit, moyennant quoi on lui donnait le mot de passe, et il pouvait dès lors se promener dans Paris toute la nuit s'il lui plaisait, dans une sécurité parfaite. Il n'avait rien à craindre car j'étais devenu le chef de tous les voleurs. Je serais indigne du nom d'homme, moi, Théophraste Longuet, si je n'osais avouer ici, à ma honte, que je m'admirais d'avoir su monter une aussi prodigieusement criminelle entreprise. Tout à fait criminelle. Hélas, car mon intention de police pouvait être en soi une conception admirable, mais l'exécution de cette conception nous incita par la suite à de tels débordements, à de si nombreux attentats, que l'honnêteté première de l'affaire ne saurait être, à mes yeux, une excuse. Le bourgeois ne comprit pas. Il résista trop long souvent et il en résulta des malheurs. Nous n'avions point cependant le clergé contre nous parce que nous respections les églises. Un prêtre défroqué que nous appelions le ratichon nous rendit même quelques services qui le conduisirent bientôt à donner la bénédiction par les pieds, comme muni patibulo. Alors ici j'arrêtai Adolphe pour l'explication à cause des mots latins. Il me répliqua que si j'avais réellement fait mes études au collège de Clermont, avec Voltaire, je saurais le latin et que « comme muni patibulo » veut dire « au gibet commun ». et que donner la bénédiction par les pieds, comme Munipati Bulow, signifiait dans le langage du temps être pendu aux fourches patibulaires, comme on appelait encore le gibet. « Mais oh oui, je sais, répondis-je, nous passions quelquefois devant quand nous allions faire ripaille et gourgandiner pour Moulin des Chopinettes. » Oh, il y a eu beaucoup de gibets, me répondit Adolphe en me jetant un regard dont je ne saisis pas tout le sens. Gibets, échelles et pilories ne manquaient pas à la bonne ville, et même ici. Il me fixa encore d'une façon bizarre. Je vis que nous étions arrivés place de l'hôtel de ville, et il me dit. Veux-tu que nous traversions la place de l'hôtel de ville ? Bon, si cela peut te servir, je la traverserai. Tu as traversé souvent la place de l'hôtel de ville ? Oh, très souvent. Mais il ne s'est rien passé d'anormal, tu n'as rien ressenti. Tu ne t'es souvenu de rien ? Bon, de rien. Se trouve-t-il des endroits dans Paris que tu n'as pas pu traverser? Bon, j'estimais cette question tellement, mais tellement stupide, que je haussais les épaules avec un dédain écrasant. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de traverser l'endroit que je veux traverser? Tu deviens bête, Adolphe. Je ne l'avais jamais traité si familièrement, mais cette fois, il ne pouvait s'en plaindre, sa question ne signifiait rien du tout. Cependant, son regard insistait. Son regard me parlait, m'ordonnait de réfléchir. Bon, je me rappelais alors quelques attitudes inexpliquées que j'avais eues avec moi-même. C'est ainsi que plusieurs fois, devant me rendre place de l'Odéon, et me trouvant devant l'Institut, j'étais entré dans la rue Mazarine. Mais je n'y avais pas mis plutôt le pied que je retournais sur mes pas et que je prenais un tout autre chemin. Je me rendais compte vaguement de ma contre-marche, surtout après, et je m'accusais de distraction. Mais plus j'y songe, et moi je crois vraiment que c'était là une distraction. En effet, je me suis trouvé plus de 20 fois à cet endroit, et plus de 20 fois j'ai rebroussé chemin. Jamais, jamais je ne suis passé dans cette partie de la rue Mazarine qui commence à l'Institut et qui va jusqu'au coin de la rue Guénégo et jusqu'au passage du Pont-Neuf. Jamais. Et de même, quand je descendais la rue Mazarine pour gagner les quais, je m'arrêtais à la rue Guénégo et je prenais la rue Guénégo avec plaisir. Alors je dis tout cela à Adolphe. Il me demanda... Est-ce qu'il y a encore d'autres endroits que tu n'as pas pu traverser ? En effet, en y réfléchissant bien, c'est tout à fait inouï, on a bien tort vraiment de ne pas réfléchir. J'ai jamais pris le pont neuf, oh jamais, ni le petit pont. Il y a au coin de la rue Vieille du Temple une maison avec des grilles aux fenêtres et un soleil d'or devant laquelle j'ai toujours reculé. Et pourquoi, me demanda encore Adolphe, ne peux-tu passer dans ces endroits, sur ces ponts, devant cette maison de la rue Vieille du Temple ? Bon, je me rappelais alors exactement pourquoi, et certes, la raison en est bien la plus naturelle du monde. Je croyais ne pas savoir pourquoi, mais évidemment je le savais. Puisque c'était à cause des pavés. À cause des pavés. Oui, à cause de la couleur des pavés. À cause que ces pavés sont rouges. Il m'est absolument impossible de supporter la couleur rouge des pavés. Cette couleur ne me produit pas le même effet sur la brique et sur la tuile. Et alors, reprit Adolphe qui m'écoutait, penché sur moi comme un médecin, qui écoute battre l'artère d'un malade. Et alors, le sol de cette place que tu traverses, ce sol n'est pas rouge ? Ben, me crois-tu atteint de daltonisme? Sais-tu bien que cette place, fit-il brusquement, était la place de grève? Parbleu, c'était là qu'était le pilori, là l'échelle, là la plateforme, l'échafaud où se dressaient la roue et la croix, les jours d'exécution en face de la rue de la Vannerie. Enfin, là se trouvait le vieux port à charbon. Je ne pensais jamais sur cette place sans prononcer cette phrase « Il faut éviter la roue ». C'était un conseil que je donnais aux camarades, à Bourguignon, à Belavoir, à Gatelard et à la tête de mouton. Aucun dirait je le parierais d'en profiter. Ni toi non plus, ma fille Adolphe. Malheureux. Mais c'est là que tu as subi le dernier supplice. C'est là que tu as été roué. C'est là que tu as expiré dans les tourments de la roue. Oh, il était très animé en disant cela, mais je éclatais de rire au nez. Qu'est-ce qui t'a raconté cette farce-là? M'écriai-je. Ben, tous les historiens sont d'accord. Ce sont de foutues bêtes. Je sais peut-être bien que je suis mort au gibet de mon faucon. Toi? Tu es mort au gibet de Montfaucon? Qu'est-ce qui m'a fichu un âne pareil? S'écria Adolphe, qui ne se possédait plus. Mais tu es mort en 1721 au gibet de Montfaucon? Mais il y avait beau temps qu'on n'y parlait plus. Bon, je criais plus fort que lui et nous devînmes le centre d'un rassemblement. Je te dis pas que je suis mort pendu, je te dis que je suis mort au gibet de Montfaucon. Disant cela, ou plutôt criant cela, je semblais prendre à témoin les 40 personnes que notre altercation semblait intéresser et à laquelle, du reste, ils comprenaient rien, à l'exception d'un monsieur intelligent qui lui avait saisi, car il s'adressa à Adolphe et lui dit d'une voix incomparablement calme, en me montrant. Ben, vous n'allez peut-être pas apprendre à monsieur comment il est mort. Adolphe baissa la tête en s'avouant convaincu, et nous nous dirigeâmes, réconciliés, bras dessous, vers la rue du Petit Pont. Cependant, j'avais besoin d'explications, et je voulais savoir comment les historiens racontent ma mort. Adolphe, pour son excuse, m'avoua la fable qui court aujourd'hui les ouvrages les plus autorisés et qui semble du reste étayée sur les pièces les plus authentiques. Et j'appris comment on avait déshonoré ma mort. Chapitre 14. Monsieur Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox. Parmi tous les papiers que j'ai trouvés dans le coffret en bois des îles, ceux qui ont rapport à la mort de Cartouche sont certainement les plus curieux et présentent un intérêt hautement historique en ce que, justement, ils contredisent l'histoire. Ils la nient. Mais ils la nient avec une telle force de persuasion, une telle indéniable logique, qu'on se demande comment des hommes d'une haute valeur, comme Barbier, qui était cependant le mieux placé de tous, pour n'être la dupe de personne puisqu'il vivait à l'époque, on peut être victime de la plus pauvre et de la plus indéniable comédie. Comment enfin les générations qui se sont succédées depuis l'an 1721 n'ont pas soupçonné la vérité? L'histoire donc est l'histoire sérieuse. Il ne saurait s'agir en tout ceci de la légende qui est encore plus méprisable que l'histoire. L'histoire donc nous apprend que Cartouche, après avoir subi la question dans sa forme la plus cruelle, pendant laquelle il n'avoua rien, ni un nom, ni un fait, Cartouche, qui n'avait plus qu'à mourir et qui n'avait à espérer par ses aveux nul adoucissement à ses derniers moments, Cartouche fut amené pour le supplice sur la place de grève et que là, il se décida à parler. Qu'on le conduisit à l'hôtel de ville et qu'il livra ses principaux complices. Après quoi il fut roué et attaché à la croix d'où il expira. Immédiatement, 360 personnes, parmi lesquelles des personnages, furent arrêtés et le résultat des procès et des massacres judiciaires pendant plus de 2 ans. Or, les papiers de Théophraste Longuet nous font toucher du doigt la supercherie. Cartouche était en même temps qu'un objet de terreur, un objet d'admiration. Son courage ne connaissait pas de limite, et il le prouva lors de la torture. Du moment que les souffrances du brodequin ne l'avaient point fait parler, il était impossible moralement qu'il parlât. Pourquoi eût-il parlé ? Il n'avait plus, comme on l'a dit plus tard, qu'à mourir en beauté. Les plus grandes dames de la cour et de la ville avaient tout loué loges et fenêtres. Et pourquoi leur montrer sur l'échafaud la figure inutile du plus lâche en place et lieu du plus brave des bandits ? Enfin, M. Longuet combat justement l'histoire avec ses propres armes. Il est de vérité historique que parmi les 360 personnes qui furent dénoncées et arrêtées, il s'en trouvait que Cartouche aimait comme des frères, et d'autres comme les plus tendres des maîtresses et les plus fidèles, certaines étant revenues de province à Paris, méprisant tous les dangers dans cette espérance que l'enfant aurait la consolation de les voir une dernière fois. Le procès-verbal est évidemment truqué, qui montre ces femmes se jetant après la dénonciation dans les bras de l'enfant à l'hôtel de ville même. Je ne reproduirai point ici toutes les protestations de M. Longuet contre la mort déshonorante qu'on attribue à Cartouche, mais les quelques lignes qui précèdent semblent bien à mes yeux prouver a priori qu'il a raison. Quelle fut donc la mort réelle de Cartouche ? Montrons un peu de patience. Nous allons en être informés avant qu'il soit longtemps, car le déroulement de cette aventure va nous faire assister à la mort de Cartouche, à sa vraie mort, sans qu'il soit possible d'en douter. Du reste, comment pourrions-nous anticiper ? En ce moment, M. Théophraste Longuet sait qu'il est mort sur la butte au gibet de Montfaucon où il n'a pas été pendu, mais c'est encore tout ce qu'il sait. C'est en s'entretenant de cette grave question que Théophraste et son ami arrivèrent au du Petit Pont sans être passés sur le Petit Pont. Théophraste ne regarda même pas du côté du Petit Pont. Qu'est-ce qu'ils allaient faire rue du Petit Pont ? Théophraste n'en savait absolument rien, mais Adolphe était fixé, lui. « Mon cher ami, dit Théophraste, qui était dans un état moitié de souvenir, moitié de possession, regarde cette maison à côté de cet hôtel qui porte pour enseigne au rendez-vous des maraîchers. Mais dis-moi ce que tu y trouves de remarquable. » Ils étaient alors en face d'une vieille petite maison basse, étroite et sale. Cette maison était un hôtel. Au rez-de-chaussée s'ouvrait la porte d'un débit de boisson. Au-dessus de la porte, on lisait « Au rendez-vous des maraîchers ». L'hôtel était appuyé, ou plutôt semblait se soutenir en s'appuyant contre une vaste bâtisse du XVIIIe siècle que Théophraste désignait de son ombrelle verte. Cette bâtisse avait un balcon ventru en fer forgé aux dessins solides et délicats. Adolphe répondit « Je remarque un balcon superbe, et encore le carquois du dieu amour sculpté sur la porte, et encore je ne remarque plus rien. Tu ne remarques pas les fortes grilles aux fenêtres ? Évidemment. Eh, il fut un temps, mon cher Adolphe, où l'on tenait beaucoup à ce que les fenêtres fussent grillées. Jamais on ne vit autant de grilles aux fenêtres de Paris qu'en l'an 1720, et je jurerais que celles-ci furent posées le lendemain de l'affaire des petits Augustins. Les Parisiens en garnirent d'abord tout leur rez-de-chaussée. Bon, cette précaution ne nous troubla en rien, car nous avions Simon l'Auvergnat. » Adolphe crut le moment opportun de lui demander ce qu'était au juste ce Simon l'Auvergnat qui apparaissaient souvent sans raison appréciable dans leurs conversations. Théophraste répondit « Bah, c'était un objet bien utile, c'était ma base de colonne. » « Qu'est-ce que c'est que ça, ta base de colonne ?»« Tu comprends pas, allez, attends, tu vas comprendre. » Imagine-toi que tu es Simon l'Auvergnat. Adolphe voulut bien, mais pas pour longtemps. Attends, mets-toi comme cela. Et Théophraste, entraînant Adolphe contre la muraille du rendez-vous des maraîchers, lui indiqua la position qu'il devait prendre. Écarter les jambes et s'appuyer en baissant la tête et en levant les bras recourbés contre cette muraille. « Bon, je te place ici, dit-il à cause de la petite corniche qui était à gauche. Oh, je me rappelle qu'elle est très commode. Et puis après, dit Adolphe, après, puisque tu es ma base de colonne, je monte sur cette base. Et alors ? Avant, mais bien avant que M. Le Camus ait eu le temps d'imaginer un mouvement, Théophraste avait grimpé sur ses épaules, sauté la corniche, et passant d'un bond de la corniche de l'hôtel Notre-Dame au balcon de l'hôtel d'à côté, pénétré dans une chambre dont la fenêtre était restée entrouverte. Monsieur Le Camus, stupéfait et consterné, regardait en l'air et se demandait, bouche bée, par où avait bien pu s'évanouir son ami Théophraste, quand des cris perçants commencèrent à remplir la rue. Une voix désespérée hurlait « Au secours, voleur, l'assassin !»« Bon, j'aurais dû m'en douter !» s'écria M. Le Camus. Et craignant déjà quelques catastrophes, il se précipita dans l'hôtel d'où partaient les appels, cependant que dans la rue, les passants s'arrêtaient ou accouraient en levant de hâte. Il franchit un vaste escalier avec une vélocité de jeune homme et arriva au premier étage dans le moment qu'une porte s'ouvrait et qu'apparaissait Théophraste, son chapeau à la main. Il saluait très bas une vieille dame dont les dents claquaient d'effroi et dont la figure était toute emmêlée de papillotes. Il lui disait « Chère madame, si j'avais cru un instant vous causer une aussi désagréable surprise en pénétrant dans votre salon par la fenêtre, je serais resté bien tranquillement dans la rue. Je ne suis, chère madame, ni un voleur, ni un assassin. Je suis un honnête marchand de timbres au caoutchouc. » Adolphe lui avait déjà saisi le bras et l'entraînait dans l'escalier, mais Théophraste continuait. « Tout ceci est de la faute d'Adolphe, chère madame, qui a voulu que je lui montre comment Simon l'Auvergnat pouvait me servir de base de colonne. » Adolphe, derrière Théophraste, faisait des signes à la dame aux papillotes, tendant à lui faire comprendre que son ami était toqué. Là-dessus, la dame tomba sans connaissance dans les bras d'une femme de chambre qui accourait. L'escalier était envahi. Adolphe en profita pour ramener Théophraste. Ils passèrent au travers de la foule sans difficulté. Et Théophraste disait à Adolphe, « Ce qui est tout à fait surprenant, mon cher ami, c'est que ce Simon l'Auvergnat, qui nous servit de base de colonne pendant plus de 2 ans, s'est jamais douté de rien. Il croyait livrer ses fortes épaules à une bande de jeunes seigneurs qui s'amusaient. » Authentique, lors du procès des complices de Cartouche, la bonne foi de Simon l'Auvergnat fut démontrée et il eut la vie sauve. Adolphe n'écoutait plus. D'une main, il entraînait Théophraste à grands pas vers la rue de la Huchette, et de l'autre, il essuyait la sueur qui lui coulait du front. « Oh, il est temps !» murmurait-il, « il est temps !»« Qu'est-ce que j'ai fait ? Où mènes-tu ? » demanda Théophraste. « Chez un de mes amis. » Rue de la Huchette, ils pénétrèrent sous un porche rouge, dans une maison dont certainement il eût été impossible de dire l'âge. Adolphe semblait connaître les êtres, car il n'hésita pas sur le chemin à suivre. Il fit gravir à Théophraste une demi-douzaine de marches de pierre, dont l'usure était extrême, et poussa au fond de la cour une porte épaisse. Ils se trouvèrent dans une sorte de vestibule qui était éclairée par une grande lampe en forme de boule que les chaînes de fer suspendaient au plafond de pierre. « Attends-moi ici, » dit Adolphe, après avoir refermé la porte par laquelle ils étaient entrés, d'une certaine façon. Il promit de ne pas être trop longtemps, et il disparut. Théophraste s'assit dans un vaste fauteuil de paille et regarda autour de lui. Ce qu'il vit sur les murs, particulièrement, précipita son esprit dans un ahurissement profond. D'abord, il y avait une quantité incroyable de mots peints en lettres noires. Ces mots grimpaient sans ordre au long des murs, comme des mouches. Il en épela quelques-uns. Iriste, Tabetna, Jacquin, Boaz, Théba, Pic de la Mirandole, Paracels, Jacques Mollet, Nefshurunch Neshama, Ézéchiel, Aïcha, puis Ségur, Cagliostro, Vronsky, Fabre d'Olivet, Louis-Lucas, Ira, Amélie, Plotin, Origène, Gutmann, Swedenborg, Georgius, Apollonius de Tyane, Cassiodore, Eliphas Lévy, Cardan, Allan Kardec, Olympicodore, Spinoza, etc., etc., et répété une centaine de fois ce mot I-H-O-A-H. En se retournant vers l'autre mur contre lequel il s'appuyait, il vit un sphinx et des pyramides, une immense rosace au centre de laquelle le Christ étendait les bras dans un cercle de flammes. Et ces mots sur la rosace, Amphitheatrum sapientiae aeternae solius veroe. C'était la rose de la sœur aux croix. Au-dessous, c'est le verre. À quoi servent flambeaux et torches et besicles pour qu'ils ferment les yeux afin de ne point voir? Ben, ne ferme point les yeux, dit Théophraste, et j'ai des besicles et du diable si je sais où je suis. Il tomba sur cette inscription en lettres d'or. Dès que vous avez un fait, un seul fait, appliquez-y tout ce que vous avez d'intelligence, cherchez-y les côtés saillants, voyez ce qui est en lumière, laissez-vous aller aux hypothèses, courez au-devant s'il le faut. Il vit encore des éperviers, des vautours, des chacals, des hommes à tête d'oiseau, plusieurs scarabées, un dieu à tête d'âne, puis un sceptre, un âne et un œil, qui sont l'emblème d'Osiris. Enfin, il lut ces mots en lettres bleues. Plus l'âme se sera enracinée en ses instincts, plus elle sera oubliée dans sa chair, moins elle aura conscience de sa vie immortelle et plus elle restera prisonnière des cadavres vivants. Impatienté de l'absence de son ami et un peu effrayé, il voulut soulever la draperie derrière laquelle Adolphe avait disparu. Mais comme il montait sur une marche, il heurta du front deux pieds qui se balançaient en l'air et qui rendirent un bruit cliquetant d'osselets. Il regarda, c'était un squelette. Nous avons dit que M. Le Camus s'occupait de sciences occultes et pratiquait le spiritisme. Ce que nous connaissons aujourd'hui du caractère et de la science de M. Le Camus nous permet d'affirmer que c'était le plus vulgaire et le moins renseigné des amateurs. M. Le Camus avait désiré pratiquer le spiritisme par genre, par snobisme, pour étonner les salons où il fréquentait. Tout d'abord sceptique, où il faisait tourner les tables comme il faisait tourner les cœurs. Je veux dire qu'il ne croyait pas plus alors au spiritisme qu'il ne croyait à l'amour. Un jour vint cependant où son cœur devait succomber, où son esprit devait s'humilier. C'est le jour unique qui lui fit connaître Marceline. et M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox. Il rencontra Marceline dans un salon où l'on faisait surtout du père-esprit. Ce salon reconnaissait pour grand maître, pour chef, pour Dieu, M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox. On voyait rarement, du reste, M. de Saint-Elme de la Nox, qui menait la vie la plus retirée, la plus mystérieuse, au fond de sa rue de la Huchette. Aussi ses apparitions dans le salon des pneumatiques, chez la belle Madame de Bitigny, annoncées à l'avance, étaient-elles considérées par les initiés comme des sortes de fêtes religieuses auxquelles ils s'empressaient d'assister fort dévotement. Comment Marceline avait-elle pénétré dans ce milieu ? De par la volonté de M. Longuet, qui, ayant entendu parler d'un salon des pneumatiques, n'avait eu de cesse que sa femme n'y fit présenter. Il pensait, dans sa belle âme, que c'était là une espèce de cercle mondain qui réunissait les trafiquants en caoutchouc les plus en vue de la capitale. Or, chacun sait que la pneumatologie, étant cette partie de la métaphysique qui traite des esprits, de pneuma, souffle, âme, les pneumatiques sont les initiés à cette science qui n'a rien à faire avec la substance élastique et résistante extraite par incision de l'arbre appelé dans les Indes occidentales caoutchouc. Les pneumatiques s'appellent encore gnostiques. Ce sont bien entendu ceux des pneumatiques qui s'attachent plus particulièrement à l'étude de la gnose, qui n'est rien moins que l'ensemble des connaissances acquises par des voies mystérieuses échappant généralement aux procédés scientifiques connus. Le jour où Marceline fit son entrée dans le salon de Madame de Bitigny, M. de Saint-Elme de la Nox devait faire une conférence sur la gnose. Madame Longuet se trouva par un hasard providentiel à côté de M. Le Camus. Et comme ils furent un peu pressés l'un contre l'autre à cause de la foule des fidèles, et que M. de Saint-Elme de la Nox parla ce jour-là avec la plus suave et la plus pénétrante éloquence, M. Le Camus et Marceline se sentirent, avant la fin de la séance, embrasés l'un et l'autre d'un double feu, le feu de l'amour et le feu de la gnose. C'est ainsi que M. Le Camus, qui s'était trouvé, hasard toujours providentiel, l'ancien camarade de collège de M. Longuet, entra dans le ménage, après quelques autres séances, chez les pneumatiques. Marceline avait trouvé inutile de le donner à son mari, alors plongé jusqu'au cou dans les affaires, des explications embrouillées sur la différence qu'il y a entre la pneumatologie et les timbres en caoutchouc. Ce préambule était nécessaire pour nous préparer à la présence de M. Le Camus et de Marceline dans la salle d'expérience de M. de Saint-Elme de la Nox, au fond de la maison de la rue de la Huchette, cependant que Théophraste, las d'attendre dans le vestibule, bousculait un squelette. Cette visite à M. de la Nox était le résultat de la conversation animée mais honnête qui s'était tenue le matin même entre M. Le Camus et Mme Longuet, porte close. Madame Longuet n'avait rien caché de son épouvante à M. Le Camus à la suite des événements de la nuit, et l'histoire des oreilles de M. Petitot prouva à l'ami de Théophraste qu'il était grand temps de prendre ses précautions contre cartouche. M. Le Camus se sentait coupable, dans une certaine mesure, des extravagances sanglantes de Théophraste. Il se demandait déjà avec terreur jusqu'où celui-ci pourrait aller dans la voie rouge où sa propre inexpérience l'avait précipité. Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que M. Le Camus s'était conduit comme un novice en face de l'âme réincarnée de M. Longuet. Vraiment, on ne saurait trop le dire, on ne se conduit pas ainsi avec une âme réincarnée, quelle qu'elle soit. C'est peut-être le mécanisme humain le plus compliqué, le plus délicat et certainement le plus difficile à manœuvrer. Ce n'est certainement pas un pneumatique de 2 jours qui pourrait manœuvrer une pareille âme. Et notre parole d'honneur, Monsieur le Camus aurait agi comme un pneumatique de 2 jours. Il y a par exemple un principe absolu qui préside à la manœuvre des âmes réincarnées et qui est celui-ci, ne point s'occuper de la mise en mouvement avant d'être sûr de son cran d'arrêt. On peut se demander, s'il le faut, si M. Le Camus connaissait ce principe. En tout cas, il a agi comme s'il l'ignorait totalement. Il ne fut pas plutôt assuré qu'il avait entre les mains une âme réincarnée qu'il la lançait à toute vitesse. N'était-ce pas ce qu'il avait fait exactement, en mettant sans précaution aucune, sans vitesse intermédiaire, l'âme réincarnée de M. Longuet en face de son portrait? Mais maintenant, il ne savait pas comment il pourrait arrêter ce mécanisme qu'il avait mis en mouvement sans le connaître. Que vous dirais-je de plus que ceci? D'une façon générale, M. Le Camus ne savait pas comment on arrête une âme réincarnée. Je ne saurais mieux comparer M. Le Camus, dans ce cas regrettable, qu'à un enfant qui serait monté dans une automobile et qui, ayant remué quelque chose, la verrait partir. Il a, à côté de lui et autour de lui, des pédales, un levier, une roue, mais il n'en connaît pas l'usage. Quand et comment l'automobile s'arrêtera-t-elle? En attendant, il court, il vole, il écrase, il laisse du sang sur sa route, il coupe les oreilles de M. Petitot, il entre par les fenêtres chez les honnêtes gens. Or, M. Le Camus et Mme Longuet, de son côté, étaient venus ce matin-là supplier M. de Saint-Elme de la Nox de monter dans l'automobile. Il n'y avait pas à Paris un plus habile conducteur d'âme réincarnée. Cependant, Théophraste avait heurté du front le squelette. Il le considéra avec une entière et douce commisération. « Ah, tu serais bien plus tranquille, lui dit-il, à la butte Saint-Chaumont. » Et il passa en souriant tristement. Le corridor dans lequel il marchait au hasard n'avait aucune fenêtre. Une lueur rouge grenat l'éclairait. D'un bout à l'autre, sans que Théophraste pût d'abord en deviner l'origine. Et puis il s'aperçut qu'il marchait sur cette lueur rouge. Elle venait de caveaux et pénétrait dans le corridor à travers d'épais pavés de verre. Mais qu'est-ce que faisaient en bas ces flammes écarlates dans la lueur desquelles il se promenait? Il n'en savait rien, il ne se le demandait même pas. Il ne se demandait même pas pourquoi lui, Théophraste, se trouvait dans cette lueur. Il avait fini de se demander « Oh, ça, pourquoi suis-je dans cette maison de la rue de la Huchette ?» Il avait fini de se le demander parce que personne ne lui répondait. « Emmanuel, Nun, Samesh, Aïn, Sabaoth, Adonai » encore des noms sur les murs de pierre. Le seul ornement de ces murs, sur lesquels couraient des noms, était, à hauteur d'homme, une théorie sans fin d'étoiles formées par des 2 triangles du sceau de Salomon. Entre chaque étoile ou sceau, on lisait ce mot peint en vert, « Nirvana ». Ce corridor ne fuyait pas en ligne droite, il avait des courbes et des angles. Bientôt même, il eut un carrefour. Théophraste s'arrêta prudemment, mais il s'impatienta encore et s'enfonça dans l'un des 2 corridors qui aboutissaient au 1er corridor. 5 minutes après, sans qu'il pût rien comprendre, il se retrouvait au même carrefour. Alors il remonta le 1er corridor, faisant le chemin qu'il avait suivi en sortant du vestibule. Mais, fait véritablement surprenant, il ne retrouva pas le vestibule. Il se disposait à hurler de détresse quand il vit Adolphe devant lui. Celui-ci avait ses yeux rouges comme des yeux qui ont pleuré. Monsieur Le Camus lui dit avec une grande tristesse « Viens, Marceline est là. Nous allons te présenter un bon ami. » Et Théophras se trouva, sans savoir comment, dans une vaste pièce sombre, où son regard fut attiré par une lueur merveilleuse qui tombait sur la plus noble, la plus douce et la plus belle figure d'homme qu'il eût jamais vue. Chose étrange, cette figure ne semblait pas recevoir de la lumière. Elle paraissait en dégager. De fait, quand cette figure remuait, elle entraînait la lumière avec elle. Elle était figure et flambeau. Devant ce flambeau, une femme, dans la plus humble des attitudes et les mains jointes, se tenait, recueillant sur elle quelques reflets de cet être harmonieux et divin. Alors Théophraste entendit une voix amie, une voix mâle, mais plus douce que la plus douce des voix de femme, qui lui disait « Venez à moi sans crainte ». Ce qui étonnait par-dessus tout M. Longuet, depuis qu'il avait pénétré dans cette étonnante maison de la rue de la Huchette, c'était cette sorte de lumière astrale, de fluide miraculeux que dégageaient les nobles traits de M. Eliphas de la Noax, et telle que le peintre Jean Tissot a pu la reproduire en une gravure d'une beauté ineffable, d'après une apparition médiaminique photographiée et communiquée au Congrès Spirit en 1889 par Donald McNabb. Sur cette gravure, à côté de la matérialisation d'une apparition de jeune fille, on voit M. Eliphas de la Noax, médium, et sa lumière. La personne de M. Eliphas de la Noax était d'une divine éloquence, comme peut-être élégant un Christ de Tiepolo. Il avait été divinement élégant au sortir de l'adolescence en mangeant 3 millions avec les pauvres. Non point, vous m'entendez bien, qu'il eût constitué quelques donations aussi sérieuses que perpétuelles destinées à soulager de rares malheurs et à nourrir de nombreux et intéressants employés d'une assistance publique ou privée, mais il avait fait la noce avec les pauvres. Il invita les plus misérables en des villégiatures d'une incomparable magnificence, où des mois ils menaient vie de prince tout en conservant leur loque, car Eliphas, qui leur offrait, entre autres exceptionnel luxe, celui de la chasse à cour, prétendait n'être point assez riche pour leur payer des pantalons. Théophraste, ayant contemplé en silence le rayonnant visage de M. Eliphas de la Noax, car il faut renoncer à lui donner chaque fois tous ses noms. Théophraste, disons-nous, fut au comble de l'étonnement. Mais comme il ressentait une sympathie immédiate pour cet homme qui lui apparaissait en des circonstances si imprévues, et dans un cadre quelque peu démoniaque, pensait-il, il résolut de lui demander bravement la raison de tout ce qu'il voyait. « Je ne sais où je suis ?» dit Théophraste. « Ce qui me rassure un peu, c'est de voir à côté de vous, monsieur, mon ami Adolphe et ma femme Marceline. Cependant, avant tout, je voudrais savoir votre nom. »« Mon ami, » dit la voix harmonieuse, « je m'appelle Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Noax. » Vous appelez vraiment comme ça ? » demanda Théophraste, qui peu à peu retrouvait ses esprits. L'homme de lumière fit un signe affirmatif de la tête en souriant. « Après tout, » reprit Théophraste, « il n'y a rien d'étonnant à cela. Je m'appelle bien, moi, de mon vrai nom, de mon nom de famille, Cartouche. » Cartouche était le vrai nom de Cartouche. Et l'on a cru longtemps que ce nom m'avait été donné en sobriquet. Non, vous ne vous appelez pas Cartouche, fit doucement Eliphas. Vous vous appelez Théophraste Longuet. Ben, n'empêche pas l'autre, dit fort logiquement Théophraste, qui, mieux que personne, savait à quoi s'en tenir. « Pardon, répliqua plus doucement encore Eliphas, il ne faut pas qu'il y ait dans votre esprit de confusion. Vous vous êtes appelé autrefois Cartouche, et maintenant vous êtes Théophraste Longuet. » Il répéta, « Sachez cela, vous êtes Théophraste Longuet. Mon ami, écoutez-moi bien, comme on écoute un médecin qui va vous guérir. Car vous êtes malade, mon ami, très malade, à cause justement que vous croyez être Cartouche, mais vous êtes Théophraste Longuet. Je vais faire appel à toute la simplicité de votre esprit. » Tant mieux, dit Théophraste, moi j'aime les choses simples. Si j'aime pas du tout, mais pas du tout cette façon que l'on a d'entrer chez vous, à travers un labyrinthe de corridors où sont pendus des squelettes. Mais qu'est-ce qui fait chez vous ce squelette au lieu de bien tranquillement à la butte Saint-Chaumont? Je l'ai reconnu, on le traînait au charnier des fourches patibulaires de Montfaucon, le jour où avec Beaulieu et Van Boncoeur, nous fêtions aux chopinettes mes fiançailles avec ma chère femme Marie-Antoinette Néron. À cette époque, cher monsieur d'Eliphas de Taillebourg, Eliphas de Taillebourg, corrigea monsieur Le Camus, « Cher monsieur Eliphas de Taillebourg, à cette époque, mon ami Adolphe, qui est sérieux comme un âne, vous le dira, on ne pendait plus aux fourches coatibulaires de Montfaucon, mais on allait jeter dans le charnier de ces fourches la dépouille de ceux qu'on avait pendus ailleurs. C'est ainsi que ce pauvre Gratelard, dont j'ai reconnu le squelette tout à l'heure, fut traîné à la voirie après avoir été pendu place de Grève. » Gatelard, cher monsieur Feu Saint-Elme, de Saint-Elme, corrigea monsieur Le Camus, cher monsieur de Saint-Elme, Gatelard était un homme de néant, un pauvre air plein d'imagination, qui s'étant un jour déguisé en exant du roi, réclama son épée à un gentilhomme auquel il montra par la même occasion une lettre de cachet. Le gentilhomme crut qu'on l'arrêtait et tendit son épée, dont la poignée était en or et la plus belle qui se put imaginer. Cette histoire se termina pour Gatelard au bout d'une corde. Mais du diable, mon cher monsieur de l'équinoxe, de la nox, insista monsieur Le Camus, de la noce, cher monsieur de la noce, du diable, si je me doutais alors que je retrouverais un jour son squelette, dans une maison de la rue de la Huchette. » Eliphas, immobile, considérait avec une attention que rien ne pouvait troubler Théophraste et ses discours. Et celui-ci continuait. « Oh, je n'ai jamais tant ri qu'à la butte Saint-Chaumont, entre le moulin des Chopinettes et le moulin du Coq. Là se trouvait le cabaret des Chopinettes, qui avait pris la suite de l'auberge chère à François Villon, où depuis des siècles venaient en grande liesse ripailler les mauvais garçons et gourgandines les jours de pendaison aux fourches. Et c'est entre le moulin des Chopinettes, le moulin du Coq et les fourches de Montfaucon, sans que je puisse dire exactement où aujourd'hui. Excusez-moi, le terrain était si bouleversé que j'ai enfoui une partie de la dot de Marie-Antoinette Néron, si généreusement consenti par un jeune seigneur ami du bourguignon et de la vache à panier, et qui n'avait rien à nous refuser, ce soir-là, sous peine de mort. Si vous aviez un vieux plan de Paris, mon cher monsieur d'Eliphas de Taillebourg de Feu Saint-Elme, de la noce... » Théophraste n'avait pas fini de prononcer cette dernière phrase que par un phénomène insoupçonné, les demi-ténèbres qui l'enveloppaient se dissipaient tout à coup, et que la pièce, ainsi que les personnages qui s'y trouvaient, apparaissaient dans la splendide clarté du jour. Il regarda autour de lui avec une satisfaction évidente, d'abord sa femme, Marceline, qui semblait marmotter une prière, ensuite son ami Le Camus, dont les yeux étaient pleins de larmes, enfin M. Eliphas de la Nox, qui lui souriait d'un doux sourire compatissant. Eliphas avait perdu tout aspect surnaturel. Son manteau astral avait disparu. Et si ces traits avaient toujours leur pâleur sublime et inoubliable, il semblait néanmoins un homme comme tout le monde. Oh, j'aime mieux cela, fit Théophraste en soupirant. Eliphas se leva. Non, je ne vous donnerai point à consulter un plan du vieux Paris, dit-il, bien que j'en ai ici de tous les âges. Il ne faut plus, monsieur Théophraste, songer au vieux Paris. Vous n'avez plus rien à faire dans le vieux Paris. Vous êtes Théophraste et nous sommes en l'an de grâce 1899. Possible, répondit Théophraste qui s'entêtait. Mais il s'agit de mon trésor qui m'appartient, monsieur. Et c'est bien mon droit de regarder sur un plan du vieux Paris, endroit où je l'ai enfoui autrefois, pour que je puisse ensuite, sur un plan du nouveau Paris, voir où j'aurai à le chercher aujourd'hui. C'est clair. Eliphas dit, parlant à monsieur le Canu, j'ai vu souvent ici des crises de karma, mais jamais il ne m'a été donné d'en étudier de cette force. Oh, mais vous n'avez encore rien vu, insista Théophraste. Eliphas réfléchit, puis conduisant Théophraste à un endroit de la muraille où se trouvait un plan de Paris actuel, il dit « Bien, voici le point exact où se trouvaient les fourches de Montfaucon. Quant au moulin du coq et des chopinettes, qui sont marqués sur les plans de Paris de 1721, ils étaient à ces deux points de la butte Saint-Chaumont. Les fourches se trouvaient sur une petite éminence à côté de la butte principale, non loin de l'endroit où s'élève aujourd'hui le temple protestant de la rue de Crimée. Et pour retrouver votre trésor, il faudrait donc, mon ami, faire des recherches dans ce triangle. Ces buttes ont été, comme vous le disiez, remaniées de fond en comble, continua Eliphas, et je doute fort que votre trésor s'y trouve encore. Les fourches de Montfaucon sont désignées dans le document par ces mots tronqués « le four ». En remplissant les blancs, nous avons les fourches, c'est-à-dire les fourches patibulaires. Ce n'est qu'en 1766 que le charnier de Montfaucon fut transféré aux environs de la rue Secrétan. Ce dernier charnier fut découvert dernièrement. On fit des fouilles et on n'y retrouva qu'un pot de moutarde de l'époque. Je vous ai précisé l'espace ancien sur un plan moderne pour vous en débarrasser l'esprit. Mon ami, il faut vous débarrasser l'esprit. Ne soyez plus à vos trésors. Il ne faut pas vivre dans le passé. C'est un crime. Il faut vivre dans le présent, c'est-à-dire pour l'avenir. Ah, mon ami, il va falloir chasser Cartouche, parce que Cartouche n'est plus. C'est Théophraste Longuet qui y est. » Eliphas prononça ces derniers mots avec une grande force.